Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. Vous commencez à connaître le principe, on essaye d'imaginer ensemble notre vie dans les années, dans les décennies qui viennent. Alors, sans se prendre trop au sérieux, on n'a pas non plus de boule de cristal, on ne lit pas l'avenir ni dans les entrailles de poulet, ni dans les algorithmes, mais on essaye de comprendre les pistes qui sont explorées par les chercheurs, les ingénieurs, les entreprises, les startups dans les domaines des transports, de la santé, de l'éducation, du logement, avec un parti pris, celui de regarder comment la tech et l'innovation au sens large vont tous collectivement nous tirer vers le haut, avec des experts, des entrepreneurs, des architectes, des médecins.
Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel.
La thématique du jour, c'est la maison du futur. Alors moi, la maison du futur, celle qui est restée gravée dans ma mémoire, parce qu'on en a tous une, c'est un sujet qui a été largement évoqué par les auteurs de science-fiction, par les scénaristes, c'est celle de la famille McFly dans Retour vers le futur 2, film censé se dérouler en 2015, donc c'est déjà le passé pour nous, mais à l'époque, c'était le futur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et notamment de ça.
Hydratation 4, s'il vous plaît.
C'est prêt?
Et voilà!
Et un chef, maman. Personne n'hydrate une pizza comme toi.
L'hydrateur de pizza. Alors ça, c'était cet appareil dans lequel on mettait une mini pizza. Je ne sais pas si elle était lyophilisée ou si elle était congelée. Et une seconde plus tard, elle ressortait énorme et prête à être dégustée. Alors, ce n'était pas forcément hyper ragoûtant. Mais moi, ça m'a fasciné. Je l'attends toujours, mais ça fait partie de cette myriade d'appareils incroyables qu'on pouvait découvrir dans la maison du futur, où les enfants étaient attablés, casque de réalité virtuelle sur la tête. Ils demandent des fruits à voix haute et une corbeille de fruits descend comme ça du plafond avant que monsieur Marty McFly, avec ses deux cravates, puisqu'apparemment, c'était la mode en 2015, se fasse impitoyablement virer par son patron via un immense écran de visioconférence. Alors c'était une vision parmi d'autres de ce que peut donner la maison du futur. En 1934, le magazine Everyday Science en était sûr, la maison du futur serait sphérique, une boule qu'on pourrait transporter d'un point à un autre en la tirant avec un engin. À moins que vous ne préfériez une maison tout en plastique, ou plutôt en place béton, c'était la conviction de ce promoteur immobilier dans un reportage de l'ORTF en 1971.
Le place béton a l'avantage d'être un matériau révolutionnaire en ce sens qu'il est extrêmement léger, qu'il est ininflammable, et notre pavillon a également l'avantage d'être transportable sur un camion, sable sur morgue, vous transportez aisément un pavillon d'une cinquantaine de mètres carrés.
Bon, alors je l'attends toujours, moi, la maison en plastique, mais bon, allez voir ce reportage, ça vaut le coup d'œil. Elle avait un look assez particulier. C'est pour ça qu'on va essayer de rester assez modeste dans notre approche de la maison de 2050, qu'on va décliner en 3 mini-épisodes. On va se demander à quoi ressemblera cette maison. On va parler de construction. Est-ce que votre prochaine maison sera par exemple imprimée en 3D? Les maisons de demain, elles seront aussi de plus en plus connectées. Évidemment, c'était la grande promesse de la domotique. Ça fait 30 ans qu'on nous promet ça, mais c'est en train de s'améliorer, d'avancer, et cette maison, elle sera aux petits soins avec nous. Elle va presque se transformer en assistant médical, vous allez voir. Et puis, dans la troisième partie, on va laisser vagabonder notre imagination avec les appareils électroménagers du futur, du frigo connecté à la machine à laver sans eau, du robot frigo à la machine à plier le linge. Je vous promets des choses assez étonnante avec nos invités qui vont m'accompagner tout au long de ce podcast. Et pour commencer, pour cette première partie, j'accueille dans ce studio Anne-Caroline Poco. Bonjour Anne-Caroline.
Bonjour.
Ah, bienvenue. Vous êtes... je sais jamais, on dit écrivain, écrivaine. Dites-moi, comme vous voulez.
Allez, écrivaine prospectiviste.
Écrivaine prospectiviste.
Parfait, hein.
Exactement, qui a écrit entre autres, du côté de chez soi, la maison du futur, aux éditions Les Propulseurs, et plein d'autres choses, mais là pour le coup c'est votre intuition en termes de ce à quoi pourrait ressembler notre logement demain qui va nous intéresser. Et puis Virginie Allons-y, bonjour Virginie.
Bonjour.
Directrice de la prospective du groupe Bouygues, donc plus grand groupe de BTP français, donc évidemment vous avez toute votre place autour de cette table. Et c'est avec vous qu'on va commencer, Virginie, parce qu'on voulait se demander de manière assez générale comment justement un grand groupe de construction imagine, se projette sur 2050, à quoi ressemblera la maison de demain et à quels enjeux elle devra répondre.
Oui, alors c'est vrai qu'on a de gros enjeux auxquels il va falloir répondre par rapport à cette maison de demain. On a des enjeux écologiques très forts, hein, puisqu'on va devoir atteindre la neutralité carbone en 2050, puisqu'aujourd'hui on parle bien de 2050.
Ouais.
On a aussi des enjeux autour du zéro artificialisation net également à atteindre en 2050. Donc comment ne pas artificialiser davantage d'espace naturel. Et puis, on a des enjeux également sociétaux, démographiques, puisqu'on sait qu'on sera plus de 9 milliards en termes de population sur la Terre en 2050. Donc, comment arriver à loger aussi tout le monde? Et puis, pour la France, on a un autre enjeu également en termes de vieillissement de la population, puisque le nombre de personnes des plus de 75 ans va doubler d'ici entre 2020 et 2050. Il va atteindre 12 millions d'ici 2050. Donc beaucoup d'enjeux, en tout cas, qui soient écologiques, démographiques, sociétaux. Donc comment répondre à ces défis environnementaux et puis répondre surtout aux attentes sociétales qui ont beaucoup évolué et on le verra par la suite, notamment avec l'impact de la crise sanitaire également.
Alors moi, il y a une maison du futur qui me fascine et je voulais en discuter avec vous, c'est la maison imprimée en 3D. Alors ça, c'est un truc, ça fait quelques années qu'on en entend parler, c'est vrai, mais il y a des vrais projets de maisons qu'on va pouvoir construire à partir d'une imprimante 3D, et notamment un projet qui a vu le jour à Nantes en 2018, si je ne dis pas de bêtises, projet Innova.
Exactement.
Moi, j'ai eu la chance de la visiter, cette maison, alors qui est habitée d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est plus juste un projet, maison de 95 mètres carrés qui a été imprimée en 3D. Qu'est-ce que ça veut dire imprimer une maison en 3D? Comment ça se fonctionne concrètement?
Donc c'est un robot, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, avec cet axe qui a pu imprimer en polyuréthane cette maison.
Alors attendez, juste pour bien qu'on comprenne bien, parce que imprimante 3D, moi je vois bien, on peut fabriquer des objets en plastique, en résine, etc. Donc on va, à partir d'un modèle informatique, on va déposer couche par couche comme un millefeuille jusqu'à construire un objet. Là finalement c'est la même chose, mais avec un très gros bras robotique qui va venir déposer du béton, j'imagine, enfin des couches de matériaux de construction.
Voilà, donc c'est effectivement c'est ce qu'on appelle aussi de la fabrication additive, justement, cette impression 3D. Donc, comme vous l'avez expliqué, on va déposer de la matière couche par couche. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut aussi réaliser des formes très complexes qu'on ne peut pas forcément réaliser de manière traditionnelle. On peut avoir des formes d'architecture un peu spectaculaires. Et puis, l'avantage de l'impression 3D...
On peut faire des courbes, par exemple.
Exactement. Et je vais vous parler d'ailleurs... Cette maison Innova dont vous parlez est une maison, justement, qui a des courbes.
Oui, c'est ça, exactement. Après, il faut trouver les meubles qui vont avec. Il n'y a plus d'angle, quoi. Tout est complètement arrondi. C'est très, très esthétique, effectivement. Et on m'avait expliqué à l'époque que ça avait permis, d'ailleurs, de contourner des arbres qui étaient là. On ne voulait pas déraciner les arbres. Et du coup, on avait pu construire la maison quasiment autour des arbres, quoi.
Oui, parce que cette maison a été construite dans un environnement arboré et donc ça permet de bien respecter son intégration dans l'environnement et on a pu éviter les arbres. Après, l'avantage de l'impression 3D, c'est que justement, on utilise moins de matière, donc il y a moins de déchets. C'est aussi plus rapide, ça a moins de nuisances en termes de chantier hein, par rapport aux riverains. Et on a fait, en fait, pour compléter, donc Innova, c'était en 2018. Là, il y a une autre impression, un pavillon d'accueil qui a été réalisé qui s'appelle La Sphère à Harfleur dans le 76. C'est un pavillon d'accueil d'un ensemble de logements sociaux. Et donc, il a été imprimé également en 3D. Et là, on a utilisé environ 30% de béton en moins que sur une construction traditionnelle de forme identique, en imprimant sur des surfaces également très minces.
Question très, très concrète et très terre-à-terre, mais est-ce que pour l'habitant, donc l'acheteur du bien, ça coûte moins cher du coup, parce que le chantier dure beaucoup moins longtemps, on dit de l'ordre de quelques jours pour construire une maison ou pour la monter de A à Z. Effectivement, on utilise moins de matières premières, donc on imagine que ça a un impact au niveau du prix aussi.
Oui, alors pour l'instant, nous sommes encore beaucoup dans des expérimentations. Aujourd'hui, on n'a pas cette phase encore d'industrialisation au niveau de l'impression 3D. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet économique, je pense que c'est plutôt la construction hors site, l'industrialisation de la construction qui va apporter plus de bénéfices au niveau économique.
Et on n'a pas une idée de quel type d'économie ça pourrait faire réaliser à terme, une fois que ce sera effectivement démocratisé, ce genre de choses, c'est de l'ordre de quelques pourcents, 10, 20%.
Oui, il y a plusieurs scénarios, ça pourrait être une vingtaine de pourcents, mais là encore, c'est vraiment... ça, voilà, ça a travaillé au cas par cas.
Et Anne-Caroline, alors vous en parlez, vous, de l'impression 3D, justement, dans votre livre. Est-ce que vous imaginez, vous décrivez plusieurs maisons et appartements fictifs, mais plausibles, en s'appuyant sur des technologies qui existent. Et alors, je vous cite, vous parlez d'un appartement qui s'appelle le modulaire. L'appartement est en permanence transformation. Les occupants déplacent les cloisons, utilisent l'imprimante 3D ou des briques en béton allégé pour construire de nouveaux espaces. Quand c'est la crise du logement, ils accrochent une pièce supplémentaire à la façade. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est aussi la modularité, le fait qu'on va pouvoir construire des maisons à la demande, finalement.
Alors, l'impression 3D, d'abord, je voudrais juste rajouter, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentations avec d'autres matériaux, avec des déchets de riz, des déchets de cacao, des tissus. Donc, on pourra aussi imaginer que demain, on puisse imprimer des maisons à partir de nos déchets.
Oui, absolument.
Donc, ça, c'est intéressant, ça aussi. Le coût est moindre. Et donc aussi, on pourra fabriquer beaucoup plus vite. Ouais. Il faudra peut-être aussi prévoir qu'on puisse aussi détruire aussi vite qu'on a construit. C'est-à-dire d'envisager déjà des lois en disant, si vous construisez dans un temps très très court, vous pouvez aussi détruire dans un temps très très court.
Ouais, c'est pas
mal. Qui veut dire aussi que les villes vont se transformer si on a ce genre d'approche. On peut avoir un immeuble éphémère. Aujourd'hui, la construction, on le fait pour le temps. Mais on pourrait envisager des constructions éphémères.
Absolument.
Ou réversibles.
Et réversibles. Alors, le côté modulaire, c'est qu'il y a tout de même une aberration déjà dans le logement aujourd'hui. C'est-à-dire dire on évolue au niveau d'une famille, par exemple. On est 2, 3, 4. On reste dans le même appartement. Puis tout d'un coup, on est dans un grand appartement de 5 pièces où on n'est plus qu'une seule personne. Donc, pourquoi pas envisager de pouvoir évoluer à chaque fois au niveau de la famille.
Parce que les familles se recomposent, se décomposent.
Voilà.
Donc, du coup, il faudrait que les maisons suivent, finalement.
Voilà. Et puis, du coup, dans des immeubles, pourquoi pas avoir des cloisons mouvantes qui peuvent effectivement faire changer au niveau de la famille. Et puis, à un moment donné, ça existe en Allemagne, c'est de pouvoir rajouter des pièces comme un sac à dos sur un immeuble. Aujourd'hui, on pense de façon des appartements. On a un appartement et puis c'est un peu figé, il faut déménager. Pourquoi on n'aurait pas cette modularité? Et puis après, on aurait aussi le partage, ce qui est tout de même assez important dans des espaces. Les partages d'espaces de travail, de façon évidente. Les partages aussi de tous les outils qu'on utilise rarement. Par exemple, une perceuse, vous l'utilisez combien de fois?
Moi jamais, mais je suis très très peu bricoleur. Mais c'est vrai, vous avez raison.
En moyenne, c'est à peine 3 minutes.
Ouais. Donc vous imaginez un atelier partagé, finalement
Un atelier avec toutes les choses. L'appareil à raclette, vous ne faites pas des raclettes tous les soirs.
Ah, moi si, j'adore. Mais non, vous avez raison. Effectivement, on pourrait partager. Non, mais c'est intéressant. Alors, au-delà de ça, d'ailleurs, comment est-ce que l'avènement du télétravail dont vous parliez, la crise sanitaire qu'on a connue, a une incidence sur la façon dont on va réfléchir la maison de demain? À votre avis, je vous pose la question à toutes les deux. On va commencer par vous, Anne-Caroline.
Il faut penser des espaces un peu petits, pas trop grands, qui soient de la diversité et qu'on puisse faire des activités différentes et ensemble.
Ouais, c'est ça. Les espaces partagés, c'est la réponse, c'est ça, effectivement.
C'est-à-dire d'avoir aussi des espaces où l'intimité est préservée, mais le partage aussi est valorisé.
Effectivement, avec l'impact notamment de la crise sanitaire, aujourd'hui, on est en recherche de cette modularité, hein, comme l'a évoqué Anne-Caroline. Et donc, on travaille beaucoup sur cette modularité intérieure, où on peut avoir des cloisons amovibles, comment transformer finalement son salon et puis en espace de travail quand on en a besoin dans la journée. Et puis, pour rebondir sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, les espaces partagés, il y a aussi beaucoup de réflexions pour intégrer à l'échelle d'un bâtiment, d'un immeuble, ces espaces partagés où on peut trouver des espaces de coworking, par exemple. Parce que finalement, tout le monde n'a pas forcément envie non plus de travailler chez soi et n'a pas forcément toujours les bonnes conditions. Et c'est aussi agréable et ça permet de créer du lien social, de pouvoir avoir des tiers-lieux. Donc, pourquoi pas des espaces partagés, du coworking au sein des immeubles. Après, il y a aussi tout le mouvement du co-living où là, on va retrouver ce sujet de réduire les espaces finalement privés individuels et avoir beaucoup plus d'espaces partagés où ça va créer du lien social, où on va pouvoir justement, pourquoi pas, partager différents outils, où on va avoir une salle commune ou un rooftop pour pouvoir organiser.
Donc, c'est des maisons en fait qui sont les unes à côté des autres, mais avec des espaces de partage. En fait,
oui, ce ne sont pas forcément des maisons individuelles. On peut être justement à l'échelle du collectif, mais en apportant beaucoup de services, finalement, qui va générer à la fois du lien social, du bien-être, de la végétalisation, on en a parlé aussi tout à l'heure, très important. Comment demain on va lutter contre les îlots de chaleur urbains ? C'est important de davantage végétaliser justement la ville et aussi nos espaces en fait.
Et puis avoir des poules sur le toit, hein.
Voilà.
Ah, mais beaucoup les poules, ça fait plusieurs fois qu'on en parle.
Oui, mais moi je voudrais effectivement partager un immeuble avec des poules et des lapins. Et puis voilà, je pense que c'est important.
Dans l'immeuble, carrément.
Oui, pourquoi pas.
D'accord.
Sur le toit.
Okay.
Pourquoi effectivement tous les toits de Paris ne seraient pas obligatoirement réaménagés avec un peu des espaces verts, des espaces potagers, avec un toitaginier qui vient s'occuper du toit.
Vous parliez aussi, alors je reviens au mode de construction, mais dans votre livre, vous parlez aussi des tiny houses, qui est un mouvement qui est très intéressant, qui est alors né... Alors vous le faites remonter au Corbusier, vous, en 1952, vous dites il a construit un cabanon en bois dans le sud de la France où tout était pensé pour vivre dans un minimum d'espace. Il y a eu aussi la crise des subprimes aux États-Unis qui a vu ce mouvement après la crise immobilière de petites maisons, de petits espaces qui ne coûtent pas trop cher. Effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui va exploser dans les années qui viennent ? Et là, je reviens à ma question sur la construction. C'est-à-dire, l'impression 3D est parfaite pour ça. C'est-à-dire qu'on peut construire très rapidement une petite maison qu'on peut habiter peut-être quelques années, qui n'a pas forcément vocation à rester là éternellement, etc.
Je pense que 70% des personnes vont vivre en ville. Donc, il faut chercher tous les espaces. Alors, les espaces, ça va être les petits interstices entre des immeubles, ça va être de construire des étages supérieurs, ça va être de chercher un peu d'autres façons de pouvoir loger des gens.
Ouais.
Et puis aussi, eh ben, on voudra aussi un petit peu peut-être bouger, c'est-à-dire pas rester dans sa maison et pourquoi pas avoir aussi des petites maisons mobiles ou des minuscules, où on peut partir avec sa maison, elle soit si légère qu'éventuellement un drone puisse transporter sa maison pour pouvoir la mettre ailleurs.
Ah, carrément un drone qui transporte la maison.
Mais pourquoi pas ?
Le meilleur reste à venir.
Sur les matériaux de construction, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Est-ce que demain, toutes les maisons qui seront soit imprimées en 3D, soit construites de manière plus traditionnelle, seront construites toujours à base de béton ? Ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses ? Je vois par exemple qu'il y a une grosse tendance sur les maisons et même les immeubles, voire des gratte-ciels. Au Japon, ils sont en train de réfléchir à des gratte-ciels en bois. Est-ce que ce sont des pistes de réflexion aujourd'hui, par exemple chez Bouygues ?
Ce sont plus que des pistes de réflexion, puisqu'on a déjà énormément de constructions en bois. Et puis d'ailleurs, notre entité Bouygues Bâtiment France Europe a quand même pour objectif d'ici 2030 d'avoir 30% de projets en construction bois. Donc c'est vrai que le bois finalement permet de réduire de 15 à 20% les émissions de CO2 liées à la construction et à l'exploitation du bâtiment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça apporte aussi beaucoup de confort, de bien-être. Il y a pas mal d'études d'ailleurs qui le prouvent. C'est aussi un matériau plus facile à travailler. Aujourd'hui, on est vraiment obligé de refaire la ville sur la ville. On a bien compris qu'on pouvait pas, on devait en tout cas limiter l'étalement urbain. Donc tous ces sujets de surélévation, on peut les faire justement en construction bois. Donc ça, c'est aussi très intéressant.
Quand on parle de bois, c'est du bois tel qu'on le connaît là, ou est-ce que c'est du bois de la même manière qu'il y a du béton armé ? C'est du bois armé, renforcé ?
En fait, l'avantage du bois, il peut se travailler aussi avec différents matériaux. Donc après, on peut avoir la structure bois, ça peut être un habillage bois. Il y a différentes fonctions. On a fait une surélévation, justement, au-dessus d'un commerce en centre-ville à Paris, place de la Nation, où on a réalisé une auberge de jeunesse à ossature bois avec 192 lits, avec un bar-restaurant aussi en rooftop. Donc ça, c'est un exemple.
Ouais.
On a une résidence étudiante aussi, Berthelotte, à Paris, dans le 15e. Là, c'est intéressant, on parlait de réversibilité tout à l'heure, justement. C'est la réhabilitation d'anciens bureaux qui ont été transformés justement en une résidence étudiante avec 139 chambres et donc avec des murs à ossature bois et qui sont justement isolés en bottes de paille compressées et issues de circuits courts. Donc on voit bien qu'on va pouvoir utiliser beaucoup plus de matériaux biosourcés, qu'on va être aussi dans des modes où on va privilégier, si on peut, enfin tant qu'on peut, le circuit court pour répondre aussi à ces enjeux écologiques.
Et le tissu, par exemple. On peut aussi recycler le tissu.
Oui.
Pour construire des maisons.
Oui, pour construire des maisons. C'est-à-dire tout peut être recyclé. Et on pourra avoir aussi peut-être des briques de stockage d'énergie.
Des briques, c'est-à-dire du béton qui serait capable de stocker l'énergie.
Oui.
D'accord.
Ça, c'est en train de se développer.
Alors, j'avais vu le béton conducteur d'énergie, mais le béton stockeur d'énergie, intéressant
stockage.
Aussi.
Ouais. C'est-à-dire stockage de l'énergie solaire.
C'est-à-dire qu'on va prendre des matériaux classiques, on va le dire comme ça, et on va leur donner des super pouvoirs d'une certaine manière. Donc, le stockage d'énergie, moi, j'avais lu des bétons auto-réparants aussi. La maison de main qui pourrait se réparer toute seule, ça, c'est quelque chose à quoi on peut réfléchir. Ou, par exemple, réparer, quand il y a une fissure, elle va se résorber toute seule, cicatriser comme de la peau.
Ça, il y a beaucoup de matériaux auto-réparants. Avec les nanotechnologies, c'est quelque chose qui est évolue dans ce sens.
Et donc, y compris pour les maisons, vous pensez qu'on aurait ça ?
En tout cas, le béton auto-cicatrisant, c'est effectivement déjà quelque chose qui existe. Et donc, il y a plusieurs laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet-là. Et donc, on va s'appuyer soit sur des gels, des champignons ou des bactéries qui vont pouvoir justement aider à réparer, auto-réparer des fissures qui peuvent exister.
D'accord. Alors moi j'avais
une... Même le plombier du futur, oui, ce sera les nanotechnologies et les biotechnologies pour pouvoir réparer nos fuites sous l'évier.
Ce serait pratique ça.
Oui.
J'ai un dégât des eaux en ce moment, je vous assure, ça m'arrangerait bien. Alors j'avais lu un truc passionnant sur la micro-architecture aussi, l'architecture à base de champignons, et c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de construire, alors c'est des expérimentations, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez chez Bouygues, mais en gros on part de mycélium, donc qui est la racine du champignon, et on construit des briques qui sont extrêmement solides en fait, qui sont aussi solides que des briques visiblement, qui sont résistantes au feu. En fait, on met du mycélium, on met des déchets organiques, le mycélium mange le déchet organique et forme un moule en forme de brique, et on est capable comme ça de réaliser des constructions. Ça fait partie des matériaux de demain.
La maison vivante aussi, c'est-à-dire dans certains arbres, et on va évoluer, pourquoi pas aussi exploiter le vivant dans la ville.
Exactement, ça c'est tout le sujet du biomimétisme très important, qui est une approche qui consiste à s'inspirer des principes du vivant, justement, comme le disait Anne-Caroline. Donc, non seulement on va s'inspirer des formes du vivant, mais des matériaux, des processus de fabrication et aussi des interactions entre les êtres vivants. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe aussi de plus en plus dans le secteur à la fois de la construction, mais même de la ville, en fait, s'inspirer du vivant.
Et ça prend quelle forme, concrètement, alors, dans la maison du futur ?
Ben, après, il y a beaucoup d'expérimentations sur ces sujets-là. Mais si je cite un projet qu'on a accompagné, que notre filiale Élan a accompagné, qui est le projet Écotone à Arcueil, c'est un très bel exemple autour du biomimétisme. Alors là, on n'est pas sur la maison, on est plutôt sur du tertiaire avec différentes activités. Et en fait, tout le bâtiment a été pensé en lien, enfin en tout cas en s'inspirant du vivant, avec notamment des sujets d'écailles sur la façade qui vont s'articuler en fonction de la lumière, réguler la température.
C'est un autre paradigme. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on a des murs, c'est carré, ça ne bouge pas. Et bien, pourquoi pas aussi construire à partir du vivant, et donc on aurait des appartements qui vont un peu évoluer.
Absolument, c'est intéressant ça. Et alors, il y a un autre enjeu qu'on a un tout petit peu évoqué, mais c'est l'enjeu écologique et énergétique. On parle beaucoup des passoires énergétiques en ce moment. Quel type de matériaux on pourrait utiliser, ou quel type de technologie et d'innovation pour, justement, d'ici 2050, arriver à avoir des maisons qui soient plus respectueuses de l'environnement et qui ne soient plus des passoires.
Qui ne soient plus des passoires.
Non, qui soient productrices d'énergie.
Voire productrices d'énergie,
voilà.
Oui.
Mais non, parce qu'il faut aller un peu plus ambitieux.
C'est vrai.
Je suis d'accord, que ce soit des maisons à énergie positive, voilà. Par exemple. On a par exemple un concept building qui s'appelle ABC, Autonomous Building for Citizens, qui a été développé à Grenoble. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept d'habitat autonome, donc qui est habité depuis un an, puisqu'il a été livré il y a un an. Et l'objectif, c'est en fait de réduire de 2/3 la consommation de l'eau issue du réseau de ville. Donc, on va aussi utiliser justement les eaux de pluie, réutiliser les eaux grises. C'est 70% d'autonomie en énergie visée, donc là notamment avec entre autres de la production d'énergie renouvelable, et puis une réduction de 40% des déchets ménagers. Donc c'est vraiment de réduire d'un facteur 4 l'empreinte du bâtiment de logement collectif sur les infrastructures urbaines. Donc on voit bien qu'il y a aussi des technologies qui se mettent en œuvre pour justement pallier et pourquoi pas aller justement vers la maison autonome demain, et en même temps qui produisent de l'énergie, de l'agriculture urbaine, du lien social.
Vision utopique de la maison de demain.
Non, en cas,
pas utopique, puisqu'on a déjà un bâtiment de logement collectif qui existe et qui est habité.
Bon, eh ben, on espère que d'ici 2050, ça va se développer, toutes ces maisons que vous nous avez décrites. On va s'arrêter là pour cette première partie de notre podcast dédié à la maison du futur. Là, on a bien décrit l'extérieur de la maison, on a vu à quoi elle ressemblait. Il est grand temps d'entrer dans la maison et de se demander comment cette maison va transformer nos vies à travers des appareils électroménagers incroyables, à travers des objets connectés et comment elle va nous chouchouter dans les années qui viennent.